Donc la suite, lorsque notre perversité fut à son comble et qu'il fut devenu pleinement manifeste que la récompense qu'on en pouvait attendre était le supplice et la mort, alors arriva le temps que Dieu avait marqué pour y manifester désormais sa bonté et sa puissance. Quelle surabondance de la bonté pour les hommes et de l'amour divin. Songez au déluge, hein, par exemple, etc. Et donc c'est un peu toute l'idée qu'on a des multiples alliances que Dieu ne cesse de reproposer à l'humanité, puis à Israël, à un nombre toujours plus restreint d'individus, pour aller au-delà du rejet, en somme, de lui par les hommes. Hein, c'est la grande parabole. La grande parabole de l'histoire du salut, c'est la parabole des vignerons homicides. Hein. Alors, voilà. Il ne nous a pas repoussé ni tenu rancune, mais au contraire, il a longtemps patienté, il nous a supportés. Nous prenant en pitié, il a assumé lui-même nos propres péchés. Il a livré lui-même son propre fils en rançon pour nous, livrant le saint pour les criminels, l'innocent pour les méchants, le juste pour les injustes, l'incorruptible pour les corrompus, l'immortel pour les mortels. Il y en a plus qu'encore que dans saint Paul. Hein. Quoi d'autre aurait pu couvrir nos péchés sinon sa justice? En qui pouvions-nous être justifiés, criminels et impies que nous étions, sinon par le seul Fils de Dieu? On a l'impression d'entendre saint Anselme déjà. Aude, comment? Oh bah oui, ça c'est vraiment repris dans toutes les. Et notamment dans la liturgie grecque, oui. Oui. Ô doux échange, opération impénétrable, ô bienfait inattendu, le crime du grand nombre est enseveli dans la justice d'un seul, et la justice d'un seul justifie un grand nombre de criminels. On a l'impression d'écouter l'épître aux Romains. Il a d'abord, au cours du temps passé, convaincu notre nature de son impuissance à obtenir la vie. Maintenant, il nous a montré le Sauveur qui a la puissance de sauver même ceux qui ne pouvaient l'être. Par ce double moyen, il a voulu que nous eussions la foi en sa bonté et que nous vissions en lui nourricier, père, maître, conseiller, médecin, intelligence, lumière, honneur, gloire. Voilà. Et puis alors, conclusion. Si toi aussi tu désires ardemment cette foi, si tu l'embrasses, pas sûr, hein. Tu commenceras à connaître le Père, car Dieu a aimé les hommes, pour eux il a créé le monde, etc. Donc, c'était. Je montre si c'est pas un texte final à ressortir à des gens, hein. Car Dieu a aimé les hommes.
Il est actuel.
Ah oui.
Il est d'actualité. Oui, il est tout à fait d'actualité.
Ouais. Ah oui, regardez la conclusion là. Pour eux, il a créé le monde, il leur a soumis tout ce qui est sur la terre, il a donné la raison et l'intelligence. À eux seuls, il a permis d'élever les regards vers le ciel, il les a formés à son image, il leur a envoyé son Fils unique, il leur a promis le royaume des cieux qu'il donnera à ceux qui l'auront aimé. Et quand tu l'auras connu, quelle joie, songe-y, remplira ton cœur. Combien tu aimeras celui qui t'a ainsi aimé le premier? En l'aimant, tu seras un imitateur de sa bonté. Et ne t'étonne pas qu'un homme puisse devenir un imitateur de Dieu. Il le peut, Dieu le voulant. Ah, c'est très beau, ça. Tyranniser son prochain, vouloir l'emporter sur les plus faibles, être riche, user de violence à l'égard des inférieurs, là n'est pas le bonheur. Et ce n'est pas ainsi qu'on peut imiter Dieu. Alors que c'est quand même tout ce qui était montré comme étant divin. Hein. Les divins empereurs, bon. Bien au contraire, ces actes sont étrangers à la majesté divine. Mais celui qui prend sur soi le fardeau de son prochain et qui, dans le domaine où il a quelque supériorité, veut en faire bénéficier un autre moins fortuné, celui qui donne libéralement à ceux qui en ont besoin les biens qu'il détient pour les avoir reçus de Dieu, devenant ainsi un Dieu pour ceux qui les reçoivent, celui-là est un imitateur de Dieu. Alors, quoique séjournant sur la terre, tu contempleras Dieu régnant dans la cité céleste, tu commenceras à parler des mystères de Dieu. Alors tu aimeras et tu admireras ceux qui sont torturés parce qu'ils ne veulent pas renier Dieu. Alors tu condamneras l'imposture et l'égarement du monde quand tu connaîtras ce qu'est vraiment vivre, quand tu mépriseras ce qui ici-bas on appelle la mort, quand tu redouteras la véritable mort réservée à ceux qui seront condamnés au feu éternel, châtiment définitif de ceux qui lui auront été livrés. Alors tu admireras ceux qui endurent le feu d'ici pour la justice et tu les proclameras bienheureux quand tu auras appris à connaître cet autre feu. Donc qui est le feu de la charité.
Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il connaîtra d'abord le Père ? Au début, tu commenceras à connaître le Père.
Tu commenceras aussi à connaître le Père si tu reçois, si tu te fais disciple du Fils.
Oui, oui, c'est ça.
Voilà. Et à travers la vie de la communauté chrétienne. Et puis alors après, vous avez alors ce que certains disent, une glose en quelque sorte. Donc je ne dis rien d'étrange, je ne recherche pas le paradoxe, alors qu'on a pas mal manié l'antinomie, non. Mais docile aux leçons des apôtres, je me fais le docteur des nations. Et là, effectivement, l'éventuel second auteur dit bien que c'est conforme à la doctrine de saint Paul. Voilà. Alors vous avez une sorte de reprise de ce que l'auteur a dit quand il parlait de la révélation chrétienne. Alors après, le style est un peu différent. Donc voilà un texte. Donc on peut dire que la Providence s'est quand même assez amusée parce qu'il aurait pu finir avec un servi d'emballage de poisson. Alors c'est amusant parce que le poisson c'est justement le symbole des chrétiens de cette époque et qui a été donc sauvé. Donc ce qui caractérise les chrétiens selon l'auteur, c'est finalement leur respect de la vie, leur rectitude en matière morale et cet esprit de service pour ceux qui ne sont pas favorisés par la foi. Et donc le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu'il ne leur est pas permis de le déserter. Et ce qui fera que justement les chrétiens vont continuer d'essayer d'être l'âme dans le corps, au point même d'y réussir avec la législation du IVe siècle, qui progressivement va affranchir les esclaves, généraliser la bienfaisance publique, réduire les sacrifices humains en supprimant les combats de gladiateurs, enfin, etc., etc. Donc il va y avoir une véritable transformation, l'instauration d'un jour de repos hebdomadaire, toutes ces choses. Donc, mais il aura fallu des siècles. Alors, maintenant, on va passer à un autre apologète. Alors, celui-là est connu depuis toujours. C'est saint Justin. Alors, c'est le plus grand apologète, celui qu'on connaît le mieux, parce que d'abord, c'est celui dont on a le plus d'œuvres. Et il est bien connu aussi par les données que l'on trouve dans ses écrits et qui sont transmises par, et les écrits aussi d'ailleurs, transmis par l'inévitable Eusèbe de Césarée. Alors, heureusement qu'on l'a eu celui-là aussi. Alors, il est né, alors on ne sait pas très bien quand, entre 100 et 114 à peu près, à Samarie, donc l'ancienne capitale du royaume d'Israël, l'ancienne capitale du royaume du Nord, après le schisme qui a suivi Salomon, donc dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Samarie, c'est la ville de Naplouse. Samarie, c'est Naplouse aujourd'hui. Il était de famille païenne et il passa une grande partie de sa vie en une ardente recherche de la vérité, un peu comme le fera plus tard Saint-Augustin. Oui. Et après de nombreuses expériences philosophiques, alors n'oublions pas que la philosophie à l'époque, c'est une religion d'une certaine manière. Le philosophe il nous fait connaître une sagesse qui nous conduit à la béatitude. Donc, après de nombreuses expériences philosophiques, alors stoïciennes, les stoïciens, vous savez, considèrent qu'on est citoyen du monde, qu'on est même une partie du grand tout, et que globalement, on retourne au grand tout. Hein. Donc, ce n'est pas très éloigné de des doctrines de l'extrême-orient. Hein. Alors, aussi, il a été marqué par l'aristotélisme, avec sa doctrine de la vertu et du premier moteur. Il a été aussi marqué par le moyen platonisme, donc le platonisme de l'époque. Le platonisme de l'époque est surtout marqué par le scepticisme. Hein. C'est, en fait, finalement, on sait qu'on ne sait pas grand-chose. Et tout ça, là, finalement, laissé insatisfait, et il finit par aboutir au christianisme qu'un mystérieux vieillard à Césarée lui révèle être la philosophie unique, vraie et définitive, qui seule peut sauver l'homme. Alors, Justin va se convertir à cette nouvelle philosophie, et il va ouvrir une école de philosophie à Éphèse, puis il va se transporter à Rome en 150. On sait qu'il était en 150 à Rome. Et on pense qu'il connaîtra le martyr en 165 sous le gouvernement du préfet Rusticus, préfet de Rome. Alors on a trois œuvres de lui. Les dialogues avec Tryphon, pas Tournesol, mais Tryphon quand même, avec Tryphon le Juif exactement, et les deux apologies, l'une adressée à Antonin le Pieux et l'autre à Marc Aurèle. Et il y a certainement d'autres ouvrages philosophiques qu'il a dû écrire mais qui ont été perdus. Alors je vais vous passer...
Passez-nous Tryphon.
Non, alors là, c'est Antonin. Quelques passages de l'apologie à Antonin. Vous savez, Antonin, c'est celui qui a son joli temple sur le forum. Là. Et adressé à Antonin. Alors, on pense qu'elle date de 153-155. Elle comporte deux parties. Première partie. Oui, enfin, il y a plusieurs sections, à vrai dire. Alors, la première partie, c'est le chapitre 1 à 29. Alors, c'est la défense du christianisme, hein, l'apologie, c'est ça. Défense du christianisme contre l'accusation d'athéisme. Si les chrétiens ne vénèrent pas les dieux, c'est parce qu'ils savent que ce ne sont que des démons qui ont profité de la peur et des calamités pour se faire reconnaître par les hommes comme divins. Et Justin dit, le Christ, comme Logos et comme Fils de Dieu, a démasqué cette imposture. Grâce à lui, les hommes ont découvert la véritable crainte de Dieu. Donc, on accuse les chrétiens d'être des athées, mais en fait, ils sont beaucoup plus religieux que ceux qui prétendent les convaincre d'athéisme. Voilà la réponse de Justin. Et alors, Justin continue en démontrant que Jésus est bien le Fils de Dieu et non un magicien. Il le fait à partir de l'Ancien Testament, montrant comment il était attendu et comment, finalement, tout l'Ancien Testament parle de lui. Ça, c'est dans les chapitres 30 à 50. Et alors, parmi ces chapitres 30 à 50, il y en a deux, trois qui sont particulièrement intéressants parce qu'ils nous décrivent la liturgie baptismale et l'Eucharistie à son époque, c'est-à-dire en plein milieu du IIe siècle. Et on a pu dater en partie le texte parce que le chapitre 48 est la reproduction d'un rescrit de l'empereur Adrien. Donc on sait que c'est postérieur à Adrien. Alors, comme l'auteur de la lettre à Diognète, eh bien Justin reprend la critique philosophique du paganisme. Hein, c'est, je parlais de, un peu de choses assez habituelles, dans, parce que certes les Juifs déjà avaient, s'étaient gossés de l'idolâtrie païenne, parfois même en des termes qui font penser au pire des gens des Lumières. Hein, quand par exemple il y a cette espèce de d'ajout du livre de Daniel où le personnage va confondre les prêtres d'un temple païen de fausseté. C'est-à-dire que les gens étaient très impressionnés parce que la divinité mangeait les nourritures qu'on lui apportait alors que les portes étaient fermées. Et alors, en fait, je crois que c'est Daniel, donc il va répandre de la cendre par terre. Et puis, le lendemain, les gens voient qu'il y a des traces de pas. Et c'est vraiment le type de blague que peuvent faire des anticléricaux contre des gens superstitieux. Hein. Et alors, c'est dans la Bible, hein, vous voyez. Ou alors, les imprécations d'Élie au moment du sacrifice du Mont Carmel. Quand il voit les prêtres de Baal qui s'agitent, qui se scarifient et autres, en attendant que le feu du ciel tombe sur leur sacrifice. Et alors Élie leur dit, mais criez donc plus fort, c'est l'heure de la sieste, votre Dieu doit dormir, ou alors il est parti en voyage, etc. Mais c'est quasiment des imprécations de comment dire, de révolutionnaires à l'époque de la Révolution. Hein. Ou alors ça pourrait être dans un musée de l'athéisme de nos amis soviétiques. Hein. Mais donc pour vous dire que le judaïsme d'abord et le christianisme ensuite a été, comme le dit très bien Ratzinger, mais après plein d'autres, n'a jamais pris de parti des religions. Il a toujours pris de parti des philosophes. Et donc il a complètement épousé la critique philosophique de la religion. Et donc de la superstition, du polythéisme, enfin de toutes les... de toute la religion païenne, en un mot. Et donc, là encore, Justin, dans toute cette première partie, va recourir aux choses bien habituelles de dénoncer les dieux païens. Et il va faire, évidemment, du christianisme la sacra philosophia, hein, la vera philosophia. La philosophie vraie, donc le vrai chemin qui conduit à la vérité. Alors évidemment, toutes les autres philosophes pensent aussi, ou alors ils pensent plus ou moins, parce que la différence c'est entre les autres philosophes et le christianisme, c'est que les autres philosophes, ils ne sont pas prêts à risquer un doigt pour leur philosophie, et les moyens platoniciens moins que les autres, puisqu'ils sont sceptiques. En revanche, les chrétiens acceptent le martyr donc comme témoignage de la vérité de la voie qu'ils reconnaissent et qu'ils font connaître. Alors pour Justin, comme on verra, on trouve ça par exemple chez Isaïe, hein, les dieux païens, ce sont des néants, donc ils ne sont à rien, hein, des néants, des vanités. En revanche, pour un certain nombre d'auteurs plutôt chrétiens, ce sont précisément des démons qui ont trompé les hommes, alors les hommes crédules, les hommes cupides, les hommes, etc. Et comme toutes les sociétés, tous les États globalement sont cupides, fondés sur la violence, etc., eh bien finalement, pas étonnant qu'ils aient pris comme religion officielle des religions démoniaques. Et Saint-Augustin, par exemple, dans la cité de Dieu, là, dans le De Civitate, il dira, vous vous adressez soit à rien, donc ça n'a aucun intérêt, soit vous vous adressez à pire. Donc, voilà, ce qui est encore pire. Donc voilà, le christianisme, il y a un seul vrai Dieu, et tous les autres, soit c'est rien du tout, sont des illusions, soit sont des démons.
Il tranche Saint-Augustin ou...
Non, pas, il tranche pas vraiment, mais il renvoie les gens à leur, à leur vision. Les dieux ne sont que des démons, et en combattant et en les combattant, le christianisme ne sape pas les bases de la société. C'est ça l'argument de Saint-Justin, comme l'argument de Ad Dignitum ou de plus tard de Tertullien, etc. C'est de dire, vous imaginez que vous avez fondé votre empire sur des bases stables, mais vos bases ne sont que du sable. Et en fait, c'est nous qui apportons la vraie et véritable base. Donc, convertissez-vous et l'empire durera. Ben non, c'est justement le problème. Mais puisque ça sera l'énorme problème qui sautera la figure de saint Augustin en 410 avec le sac de Rome. Mais Augustin répondra aussi par plusieurs raisons en disant d'un côté, il y a aussi l'accumulation sur des siècles d'impiété finalement qui finit par accoucher de la catastrophe, malgré le fait que les chrétiens interviennent, mais c'est trop tard à la fin. Et puis aussi le mystère de l'histoire dont Dieu seul est maître.